Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Bernard.
Bonjour.
La première bonjour. Chose, donc, comme c'est la première de, émission de l'année, je pense
et
que...
Il y a des nouveautés.
Il y a avant tout souhaiter nos meilleurs voeux à tous nos auditeurs et à tous les maires de Dordogne pour le travail qu'ils font et en espérant que ça soit, cette année, ça sera une bonne année pour tous. Donc, petite nouveauté cette année, donc il y a toujours Alain à mes côtés. Et il y a Bernard Pichenot. Tu peux te présenter, Bernard, rapidement ?
Oui, oui, ben, je m'appelle Bernard Pichenot, comme vous venez de dire. Je suis de La Roque-Gageac. J'ai été adjoint au maire de La Roque-Gageac pendant 12 ans. Donc, je connais un peu comment ça se passe au niveau des maires ruraux. Et puis, je suis très content de participer. Et puis, j'en profite, comme je remplace Brigitte Cabirol, pour lui souhaiter un très bon rétablissement.
Donc, oui. Par rapport à ça, par rapport à notre amie Brigitte, as-tu des nouvelles ?
Oui, j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Bon, on a eu très très peur, et c'est vrai que quelque part, elle est passée par de sacrés mauvais moments. On a tous été solidaires un petit peu de son suivi de santé. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Alors, elle en a encore, c'est vrai, à se reposer pour... elle doit subir encore une intervention chirurgicale, la dernière. Mais nous espérons que tout se passera bien. Mais j'ai des nouvelles rassurantes et nous lui envoyons pour nous des grosses bises et pour nos auditeurs un grand bonjour et puis prompt rétablissement. Brigitte, on compte sur toi bientôt et je voudrais remercier Bernard au pied levé qui vient la remplacer. Et puis peut-être que de temps en temps il nous rejoindra parce que ça, je pense que ça va l'intéresser, les sujets que l'on va aborder. Donc Bernard qui est aujourd'hui... C'est la particularité, n'est plus élu, puisqu'il a abandonné son poste, enfin, il n'a pas souhaité se représenter, mais il a souhaité rester avec le bureau des maires ruraux, et il a été délégué par la commune de La Roque-Gageac pour représenter la MRF, et donc ça nous permet, nous, de le garder comme secrétaire général de l'association. Donc, bienvenue Bernard.
Merci.
Et puis, donc, on va démarrer maintenant par vraiment les sujets qui fâchent.
On va parler des sujets qui fâchent, mais bon, on va parler parce qu'on est en pleine campagne électorale, donc pour les présidentielles. Donc en tant qu'élu, vous devez être pas mal abordé sur la question des parrainages. Alors je crois que pour la population et nos auditeurs, il est important d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un parrainage.
Alors un parrainage, c'est pas difficile, c'est que pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, chaque candidat doit amener 500 parrainages des élus de la nation, et particulièrement des maires, puisque des maires, il y en a plus de 30 000. Et c'est vrai que quelque part, c'est un parcours du combattant pour certains candidats. Alors bien sûr, les candidats très classiques, droite, gauche, centre, extrême, certaines extrêmes, c'est très facile pour eux de réunir quoique 500 signatures. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur les 30 quelques mille maires que nous avons en France, une grosse majorité, pratiquement 80-90%, sont entre parenthèses apolitiques. C'est-à-dire ils se présentent pour l'intérêt général de leur commune et certainement pas pour une idée politique. Donc quelque part, depuis des années... nous voyons arriver des candidats avec plein de promesses, avec plein de choses pour les communes rurales et pour la ruralité. Et quand ils sont élus, eh bien, ils ont complètement oublié les promesses qu'ils avaient faites. Donc c'est pour ça, pour ce mandat-là, c'est vrai qu'au même titre qu'il y a beaucoup d'abstention du vote blanc, eh bien, il y a beaucoup de maires qui ne veulent plus donner leur parrainage. Et ça pose un problème pour beaucoup parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, alors ça aussi, je le signale, c'est que ce parrainage n'a rien à voir avec l'idée politique du maire. C'est-à-dire que le maire doit donner un parrainage. C'est pas pour ça, s'il donne son parrainage à quelqu'un, par exemple, je vais prendre l'exemple à un écologiste, c'est pas pour ça qu'il est écologiste. S'il le donne à un candidat d'une extrême, c'est pas pour ça qu'il est de l'extrême. C'est pour la démocratie. Il doit y avoir la possibilité démocratiquement de se présenter. Alors... le revers de la médaille, c'est que vous avez bien vu qu'aujourd'hui, on a une foultitude de candidats. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont là un peu pour le... pour pas grand-chose, quoi, c'est-à-dire qu'ils représenteront pas grand-chose. Mais quelque part, bon, c'est quand même normal qu'ils puissent être candidats à partir du moment où ils ont un programme et qu'ils ont des idées. Voilà, voilà un petit peu ce que je pense, moi, du
parti. Bernard, toi...
Je suis un peu le même avis qu'Alain. Ce serait dommage que des candidats, même si on n'est pas de leur sensibilité, même si on les aime pas, ne puissent pas se présenter pour cause de non-signature. Moi, c'est vrai que les maires sont dans des positions un peu difficiles parce que certains subissent des pressions aussi de la communauté de communes, du député, pour pas qu'il donne son parrainage à tel ou tel candidat. Moi, je trouve que c'est pas conforme. Alors, il faut peut-être revoir un petit peu aussi cette façon de faire, hein. Peut-être qu'il faudrait y ajouter, j'ai entendu ça hier, ouais, un certain nombre de parrainages de citoyens, pourquoi pas, faire un mixte des deux, mais il faut aussi limiter les candidatures, parce que ces candidatures, on voit bien, pour juste faire parler de vous pendant quelques jours, ça pose problème aussi. Mais il ne faudrait pas que des candidats qui ont des gens qui voteront pour eux ne puissent pas participer à l'élection. Je trouve que ce serait dommage pour la démocratie, et bon sang, en ce moment, la démocratie, elle souffre un peu.
Donc, alors, vous avez vu également sur les médias qu'il y a un maire rural qui a eu l'idée de le mettre au vote dans sa propre commune. Bon, c'est une commune qui fait 1200 habitants. Alors, il faut prendre toutes les réserves, parce que c'est bien beau de demander à la population, mais s'il se retrouve, il risque d'avoir d'énormes surprises. Et c'est vrai que quelque part, il faut que bien la commune soit représentée. Et il n'ouvrira les votes que s'il y a plus de 25% de votants. Et moi, je trouve que ce n'est pas suffisant, déjà. Il faudrait qu'il y ait au moins 50% des votants. S'il n'y a pas 25% des votants, il n'ouvrira pas les bulletins de vote. Et il s'en remettra à sa propre opinion. Par contre, c'est vrai que Bernard a raison. Il y a des candidats qui ont dit qu'il fallait changer le mode de parrainage. Donc moi, incontournablement, parce que le maire est quand même la base de la Constitution et la commune est la base de la Constitution, que les maires soient... que les candidats soient parrainés par les maires, alors ça peut être 250 maires, et derrière, il pourrait y avoir un parrainage de la population. Alors bien sûr, c'est au prorata, il y a 30 000 maires, il y aurait 250 voix des maires, et la population, il y a quand même plusieurs millions, on a 65 millions de Français, il faudrait qu'il y ait au moins 200 000, 300 000 signatures
d'électeurs.
Électeurs pour avoir, ça ferait la balance entre les deux, et je crois que ça serait plus démocratique.
Alors c'est vrai que ce problème de parrainage, c'est pas tout à fait la même situation un petit maire d'une commune de 100 ou 300 habitants qu'un maire d'une ville comme Périgueux qui lui est plus marqué politiquement, parce que ça, moi je vois mal la mairesse de Périgueux soutenir Mélenchon ou Zemmour. Sauf que, effectivement, en marchant comme ça, si on met la même position pour les petits maires, il n'y a plus de démocratie, il n'y a qu'un certain nombre de partis qui peuvent bloquer toute la démocratie. Donc je pense que c'est important.
Bernard l'a dit tout à l'heure, il a cité certaines personnes qui font pression. Il en a oublié quelques-unes, et particulièrement en fonction des subventions. Vous savez bien qu'aujourd'hui, une commune a besoin de subventions. Il y a le département, il y a la région, là, par contre, les candidats sont affichés politiquement. Et c'est vrai que si le président du conseil départemental ou du conseil régional voit qu'un maire a donné un parrainage à quelqu'un d'une extrême ou ne serait-ce que d'un parti opposé, il aura plutôt tendance à dire... alors ça, c'est là le fond de la démocratie, et c'est là qu'on voit l'homme, c'est là qu'on voit le citoyen. Parce qu'un président qui ferait ça, c'est pas normal. Il faut qu'il comprenne que tout le monde a le droit de se présenter et que la démocratie, elle passe par là. Alors, voilà, c'est tout.
Alors c'est vrai que le système a un petit peu changé, puisque avant, la liste des gens qui parrainaient n'était pas publiée. Aujourd'hui, il y a cette publication qui pose effectivement un certain nombre de problèmes. Mais je crois que il y a une proposition qui avait été faite par un maire qui disait... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais signaler à mon conseil municipal que je ne suis pas d'accord avec telle personne, Mais néanmoins, pour la démocratie, je vais signer. Bon, je pense que ça, c'est important que les maires puissent le faire pour se dédouaner, pour montrer qu'ils sont effectivement des démocrates.
L'expliquer à leur conseil.
Et ça, je pense que c'est important, même si on parraine quelqu'un qui n'est pas forcément de son bord politique.
On a bien parlé des parrainages. De quoi on parle maintenant, Gérard?
On pourrait peut-être parler un petit peu de la situation actuelle. Bon, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la question du Covid par rapport aux écoles. On voit tous les problèmes qu'il y a actuellement sur les communes. Les enfants avec les différents protocoles de Blanquer qui posent un problème. Et comment vous, en tant qu'élu, vous ressentez ça, puisque c'est vous qui mettez en place les protocoles sur un certain nombre d'écoles, entre autres.
Mais je vais te répondre comme d'habitude. C'est-à-dire que le gouvernement propose et le maire se débrouille. Mm. Voilà. Et qui c'est qui est encore à l'avant-garde dans cette position dans toutes les écoles? C'est le maire. Le maire qui est responsable de l'école. Alors, je parle surtout des écoles primaires. Les collèges, bon, c'est pareil. Là, c'est le département. Mais c'est vrai que quelque part, ça pose un énorme problème parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tester des enfants, c'est pas tester des adultes. Et c'est vrai que les enfants ont du mal à déjà accepter d'être contrôlés. Et puis deuxièmement, leur imposer le masque, c'est pour eux quelque chose de difficile, sur toute une journée. Et ça pose vraiment des problèmes. Alors moi, je pense qu'il va falloir... J'espère que le Covid va disparaître assez vite. Il est moins dangereux qu'il a été, mais quoi qu'il faut faire très attention. Et c'est vrai que quelque part, moi je l'ai toujours dit, l'erreur du gouvernement, ça a été dès le départ de ne pas le rendre obligatoire. Au moins c'était obligatoire, on n'en parlait plus.
Donc on va faire une petite pause musicale.
Et après Bernard donnera son avis.
Après Bernard donnera son avis et après on pourra discuter un petit point qui me paraît intéressant puisque tu es un ancien agent d'EDF, de la prise de position du gouvernement sur EDF d'augmenter l'arène.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on les laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, mais Bernard, on t'a pas oublié, nous.
Oh, bonjour.
Quelle transition.
Donc, ton petit avis sur la question du Covid par rapport aux écoles.
Je crois que ce qu'il faut reconnaître, c'est que une fois, comme le disait Alain, les maires ont fait un boulot extraordinaire, avec des consignes qui n'étaient pas toujours claires, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que c'est difficile, mais je reconnais quand même qu'on allait garder les écoles ouvertes. Quand on voit dans certains pays où les écoles étaient fermées plusieurs semaines, plusieurs mois, il semble que ce soit catastrophique au niveau des enfants. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple du tout. Et ce dernier protocole pour les écoles, c'est illisible pour les parents, c'est très difficile, et les mères se retrouvent devant la mauvaise humeur des parents, des enfants, parce que les enfants se plaignent aussi, et puis des enseignants, à juste titre aussi par moment. Je crois que vivement qu'on en sorte, parce que là, je pense qu'on est à bout.
Donc on va changer un petit peu de sujet, on va revenir sur la question du pouvoir d'achat. Et bon... Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu, parce que Alain, tu es un ancien d'EDF. Donc, la décision...
Nul n'est parfait.
Ouais, d'imposer à EDF une augmentation de l'AREN. Donc, déjà, il faut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que l'AREN.
Avant de passer à ça, tu viens de parler de pouvoir d'achat. Alors, c'est curieux. Quand même, je voudrais citer, depuis des années, tous les syndicats, tous les employés, les ouvriers demandent des augmentations de salaire. C'était absolument impossible. Et d'un seul coup, il y a une présidentielle, il y a des prix qui montent. Et là, d'un seul coup, c'est curieux, tout le monde est pour un pouvoir d'achat qui monte. Donc vous voyez un petit peu, si les gens comprennent, c'est qu'il y avait du mensonge, il y avait beaucoup de mensonges. On peut très bien monter. J'ai vu un restaurant dans la région du Var qui va augmenter ses employés de 30%. Mais chiche, que tout le monde le fasse et vous verrez que le pays tournera mieux parce que ça sera de la consommation pour tout le monde. Voilà. Alors pour en revenir à EDF, bien sûr, la haine, c'est un petit peu ce qui régule le kilowattheure nucléaire par rapport au prix de vente. Et c'est vrai que quelque part, nous étions aux alentours des 42 euros le mégawattheure. Le mégawattheure, je crois que c'est 1 million de kilowattheure. Et aujourd'hui, il vient de passer à 208 euros parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrête des centrales électriques, on se rend compte qu'on consomme beaucoup plus. Je rappelle que d'ici 2030, la consommation d'électricité va doubler, qu'on propose la voiture électrique, qu'on propose l'éveil, qu'on propose les téléphones. Tout ça fait qu'il va y avoir une augmentation terrible de la consommation de l'électricité. Donc ça fait que l'électricité monte. Et aujourd'hui, de passer de 42 à 208, je vais citer l'exemple des collectivités locales. Le syndicat des énergies de la Dordogne, qui est aujourd'hui le porteur d'un groupement d'achat pour les bâtiments publics, les écoles, les mairies, les salles des fêtes, les gymnases... on avait obtenu un bon prix dans la négociation, eh bien on vient de nous avertir que pour le budget 2022, on devait prévoir sur notre budget électricité, consommation, 40% d'augmentation. Voilà le résultat.
Et donc aujourd'hui, quand tu précises, il faut bien préciser à nos auditeurs que 42, c'est le prix que vend EDF à ses concurrents.
Oui.
Alors que sur le marché, il est actuellement à 208. Hein. Donc ça permet à ses concurrents qui ne produisent pas, en total en France, de préserver sa marge de bénéficiaire et donc la marge pour ses actionnaires. Donc par rapport à cette mesure que va payer la population, c'est quand même 10 milliards, hein, ça représente. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions, entre autres pour la baisse de la CVA
mais... La cerise sur le gâteau, Gérard. Qui c'est qui a proposé ça au gouvernement? Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Vas-y.
C'est Madame Pompili. c'est la ministre de l'écologie qui a proposé ça. C'est quand même c'est incroyable de voir ça. Ça veut dire que quelque part, même elle tient même plus compte de ses idées écolo. Hein. Elle va dans le sens du lobbying et le sens d'un profond libéralisme. Parce que qu'est-ce que c'est qui se cache derrière ça ? C'est clair. On a réussi par des actions à arrêter le programme Hercule qui démantelait EDF. Mais ils remettent le couvert.
Voilà, c'est une façon déguisée de pouvoir permettre la mise en place du projet Hercule. Alors, un petit mot par rapport à ça. Je crois que pour préciser, la plupart des communes de la Dordogne s'étaient prononcées contre le programme Hercule. Oui.
On passe à autre chose. Bernard, tu as une idée là-dessus ?
Non, joker pour moi là, sur l'électricité. C'est vrai que si au niveau électricité, au niveau des dépenses courantes des ménages, et de moi-même et de vous, c'est vrai que ça devient quand même très dur. Et heureusement, quand même, quelque part, qu'on a nos centrales nucléaires. Parce que quand on voit le prix d'électricité dans les pays à côté, que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou qui nous reprochent d'avoir des centrales nucléaires, c'est quand même, alors que les Allemands sont les plus gros pollueurs avec leurs centrales à charbon en ce moment, c'est vrai que je ne sais pas où en serait le prix d'électricité. Mais c'est vrai que dans les semaines qui viennent, l'électricité, le carburant,
le gaz,
tout ce qui est de première nécessité, les premières nécessités font que je vois mal comment on va s'en sortir, comment les gens vont continuer à s'en sortir. Alors c'est bien augmenter les salaires, oui, mais il va falloir les augmenter drôlement.
Si, il faudra acheter une baguette à 29 centimes que tu gardes 2 heures et qui est imbouffable à prix.
Donc tu disais 40% d'augmentation du budget
Des communes pour la facture électrique, y compris dessus l'éclairage public, bien sûr. Donc c'est énorme, et dans les budgets, il faut savoir que le budget d'une commune... La facture énergie est très importante. Donc voilà, on va pas développer, mais il faut le dire aux auditeurs, ce que nous allons subir, ils vont le subir eux aussi. C'est incontournable, ça c'est sûr. Voilà. Et je voudrais revenir aussi, tant que j'y suis, parce que je ne veux pas l'oublier, c'est qu'en termes de pouvoir d'achat, nous on a un souci aussi supplémentaire, c'est nos secrétaires de mairie. Et on les oublie. Et c'est vrai que quelque part, on va être obligé. Et je me dois, je l'ai déjà fait, moi, parce que je trouve qu'une secrétaire de mairie, c'est la personne la plus importante dans la mairie rurale. Et c'est vrai qu'il va falloir penser à les revaloriser, parce qu'elle gagne, mais largement insuffisamment, pour pouvoir vivre décemment. Et donc, ça, il va falloir le faire, sachant en plus qu'il y en a 42% qui, dans les 10 années, vont nous quitter, qui seront à l'âge de la retraite, et qu'il faudra aussi embaucher des jeunes. Il y a 25 000 postes dans les secrétaires de mairie, donc il faudra quand même qu'on pense à ces gens-là, parce que s'il y a quelqu'un s'il y a un collaborateur proche du maire dans les communes rurales, c'est la secrétaire de mairie. Et il y a 98% de
là où le secrétaire.
Les secrétaires, oui, mais plus de 95% sont des femmes. Donc ouais. Voilà, bien sûr, il y a des secrétaires masculins, il y en a. Mais bon, moi, je pense que ça aussi, il va falloir y penser.
Donc, je pense qu'on fera une émission spéciale. On a toujours parlé.
D'achat.
Non, sur les secrétaires de.
Oui,
de
on en fera venir une.
Et je pense qu'il faudra qu'on
regarde. On en fera venir
pour
une.
Pour le mois de mars, ça serait pas mal qu'on fasse. Voilà.
Mais là, Bernard viendra, parce que lui, il n'est pas secrétaire de mairie, il est secrétaire de la MRA.
Et donc, juste un petit aparté. Bon, par rapport au budget des mairies, bon, qui vont baisser. Avec l'augmentation de l'électricité, actuellement, va repartir le recensement.
Oui.
C'est une opération qui est quand même importante pour les mairies. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert pour une mairie, le recensement ?
Tu vas l'expliquer, je démarre ou tu démarres ?
Vas-y.
Bon, alors, le recensement, il a une importance qui est très importante, parce que c'est en fonction, ce que l'on touche de l'État, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement de l'État, elle est basée sur plusieurs critères. Un, sur le nombre de kilomètres de voirie. Donc ça, c'est un élément. Ça, en principe, ça ne bouge pas trop, à quelques kilomètres près. Depuis des années, c'est à peu près pareil, la voirie communale. Deuxième point, le nombre d'enfants à l'école. Ça, il y a beaucoup de mairies qui ont aujourd'hui perdu leur école. Donc, vous voyez que leur dotation a baissé puisqu'ils n'ont plus d'école. Par rapport au nombre d'enfants, c'est important d'avoir des habitations parce que plus vous avez des enfants, et plus vous touchez. Et puis, le dernier point que tu disais tout à l'heure, c'est... J'ai perdu, c'est la population, le nombre d'habitants. Donc, le nombre d'habitants est très important parce que plus vous avez d'habitants, plus vous touchez, moins vous avez d'habitants, moins vous touchez. Moi, je vais prendre mon exemple. J'ai été en pleine récession au niveau de ma commune. Je suis passé en 2001, de 2001 à 2020, je suis passé de 288 habitants à 358 habitants. Donc j'ai eu une augmentation de ma DGF. Depuis, j'ai eu beaucoup de décès, beaucoup de départs. C'est pour ça que j'ai attaqué une politique de réhabilitation des maisons et puis une politique d'urbanisme pour avoir des maisons neuves, pour faire venir des gens. Donc je suis retombé quand même de 2020 à aujourd'hui. J'ai perdu une trentaine d'habitants. Voilà. Aujourd'hui, je veux les retrouver. Je vais les retrouver puisque j'ai quand même une dizaine de constructions et puis 5 ou 6 rénovations. Donc je vais les retrouver. Mais en attendant, sur ce laps de temps du travail que je suis en train de faire, j'ai perdu de l'argent par rapport à la dotation de l'État. Merci. Voilà. Ce sont les trois critères importants pour toucher cet argent de l'État.
Bernard. Oui, il faut savoir que suivant jusqu'à moins de 500 habitants, la dotation est d'un certain montant. Dès que vous passez à 500 habitants, la dotation augmente significativement. Donc on a intérêt, nos petites communes de moins de 500, à essayer de gagner quelques habitants, mais ce n'est pas facile. Parce que je vois dans ma commune, à La Roque-Ajac, entre les inondations, les chutes de rochers, les terrains constructibles, il n'y en a pas beaucoup. Mais on arrive, il faut se battre. À propos, on n'a pas parlé de l'artificialisation des sols, parce que ça va faire mal aux communes dans les PLUI.
Ça sera le prochain sujet.
Là, ce sera le prochain sujet, parce que je pense qu'il va falloir se battre nos communes rurales pour éviter que ce soit le littoral qui prenne tout.
Donc, pour venir un petit peu... le recensement, c'est une réactualisation de ce que va vous donner l'État pendant 5 ans.
Voilà, c'est une obligation à faire minimum tous les 5 ans.
Donc c'est important de l'avoir, et d'autant plus qu'elle soit le plus précise possible par rapport au fait que vous avez perdu de l'argent avec la taxe d'habitation.
Tout à fait.
Donc c'est un moyen pour pouvoir récupérer si c'est
bien. Ah, mais tu nous parles de la taxe d'habitation.
Voilà.
Je vais vous en reparler de la taxe d'habitation. Justement, M. Macron, qui était content comme tout de supprimer cette taxe. Alors c'est bien pour les gens, bien sûr, parce qu'ils ne vont plus la payer, mais ils la paieront autrement. Ça, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais par contre, pour les communes, on s'est rendu compte que le fait de la suppression de la taxe d'habitation par le biais des compensations... Parce qu'il y a des communes qui ont été surcompensées, des communes sous-compensées par rapport au foncier bâti qu'a donné le département. Eh bien, on s'est rendu compte que l'État vient de donner encore 41 milliards en France aux grosses communes par rapport aux communes rurales. Parce que la plupart des communes surcompensées, ce sont les communes rurales par rapport au foncier bâti. Et ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de foncier bâti dans les grandes villes. Il y a beaucoup plus de maisons. Et les communes sous-compensées, ce sont principalement les communes urbaines. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis surcompensé de 21 000 euros. Ça veut dire je suis compensé au centime près par rapport à ce que j'avais en taxe d'habitation. Mais cet argent-là, au niveau du département, comme c'est un pot commun, c'est 21 000 euros, c'est l'État qui les récupère, pour les distribuer à une commune sous-compensée Lyon, qui va toucher 9 millions d'euros. Vous voyez un petit peu le rapport de force, c'est ça qui est injuste. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est unique, c'est que quelqu'un qui paye des impôts à Rouffignac de Sigoulès va payer des impôts pour aider la commune de Lyon, ou une autre. Et ça, c'est encore plus injuste. Voilà un petit peu où on en est avec cette taxe d'habitation.
Juste un petit mot, Bernard, pour... Juste finir, parce qu'on est à la fin de l'émission.
Non, mais je suis content d'avoir participé. Ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire sur nos communes rurales, sur la ruralité en général. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Je rappelle que le Congrès national des maires ruraux se fait à Imay. Alors la date est fixée, le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre, sur tout le week-end, où nous allons avoir entre 500... et entre 500 et 1000 maires qui vont arriver en Dordogne de toute la France. Donc ça, ça va être un événement dont on vous reparlera parce qu'il y aura des débats entre les élus qui vont être de première importance et avec certainement la visite soit du Premier ministre, soit du Président de la République et certainement de 7 ou 8 ministres. Donc c'est un événement pour nous majeur et je suis ravi d'avoir obtenu ça du Bureau national.
Bernard, Alain, je vous remercie.
Merci
au mois prochain. Et aux auditeurs, bonne journée. À bientôt.